Merci Ilan, on vous retrouve à 18h. Aujourd'hui, la grande table prend le large. À 12h30, elle voguera vers la mer d'Irlande pour rejoindre l'écrivaine Anne Griffin, auteure d'un premier roman « Toute une vie et un soir » publié aux éditions Delcourt. Mais avant, une autre vague, celle du rock, va nous occuper. Une vague dont Edgar Morin disait en 1963 qu'elle avait pénétré dans les faubourgs et les banlieues, régnant dans les jukebox des cafés fréquentés par les jeunes. Une vague musicale en écho avec celle d'un monde décolonisé qui mettra plusieurs décennies à se redessiner. Dans les capitales européennes, Paris et Londres en tête, la musique, vecteur identitaire premier, a servi de langage aux minorités, un mode d'expression et de lutte, auquel le musée de l'histoire de l'immigration consacre une exposition Paris-Londres Music Migration. Deux des commissaires, Angéline Escaffré-Dublé, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Lyon 2, et Martin Evans, professeur d'histoire moderne européenne à l'université de Sussex, sont avec nous aujourd'hui pour en parler. Bienvenue à tous sur France Culture.
Arrivals at Tilbury. The Empire Windrush brings to Britain 500 Jamaicans. Many are ex-servicemen who know England. They serve this country well. In Jamaica, they couldn't find work. Discouraged but full of hope, they sailed for Britain. Citizens of the British Empire coming to the mother country with good intent. Prodded by public opinion, the Colonial Office gives them a more cordial reception than was at first envisaged.
Alors, Martin Evans, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. C'est l'arrivée du bateau Empire Windrush dans le port de Tilbury. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Oui, parce que d'abord, c'est le contexte de nouvelle loi. C'est le loi de nouvelle Commonwealth, des citoyens d'un Commonwealth. C'est une deuxième Commonwealth. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que effectivement, cette loi, c'était pour établir ou renforcer des ponts avec un Commonwealth blanc plutôt qu'un Commonwealth multiracial. Donc, c'était pas envisagé l'arrivée des Jamaïcains comme ça. Donc,
alors là, c'est ce qu'on entend. Hein, on est le 24 juin 48.
London is the place for me. London. This lovely city, you can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London city. I am glad.
Martin Evans, vous nous servez de traducteur et de musicologue en même temps. On entend justement chanter. Alors c'est justement ces personnes qui vont voyager sur le Windrush, sur ce bateau, en 1948 et qui chantent leur terre natale, mais aussi Londres. Londres, la ville-mère, considérée comme la ville-mère.
C'est la ville-mère de l'Empire. En même temps, ce qui est très important, c'était des Jamaïcains. Et beaucoup de ces Jamaïcains avaient été des soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait une connaissance personnelle de la Grande-Bretagne, de Londres. Et puis, en plus, il y a la pauvreté en Jamaïque. Il y avait une pauvreté énorme. Donc, c'est l'idée que la Grande-Bretagne, Londres, c'est une choix économique. C'est une possibilité économique pour une vie meilleure.
Alors, Angéline Escaffré-Dublé, justement, on entend, alors là, c'est un extrait chanté plus traditionnel qu'autre chose, et artisanal aussi. Vous faites ce lien dans cette exposition au Musée de l'Immigration entre les migrations de population et les migrations musicales. En quoi la musique a-t-elle justement participé de ces phénomènes-là?
Oui, ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est à quel point la musique nous permet de souligner cette contribution des vagues migratoires à la transformation de Paris et Londres. Et effectivement, dans cet extrait, on entend donc Lord Kitchener, qui est un chanteur qui est déjà célèbre hein, dans son pays, qui vient de Trinidad, et donc un chanteur de calypso, là, ce rythme qu'on a entendu. Des gens comme Lord Kitchener, mais d'autres artistes, vont apporter à Londres ce style de musique qui leur est propre, qui est développé dans les Caraïbes, donc comme le calypso, mais aussi le ska qui viendra de Jamaïque, mais aussi le high life qui vient du Ghana et du Nigeria. Et ces musiques vont venir animer les soirées dansantes de Londres, de ces communautés-là, et progressivement aussi se mélanger dans un véritable creuset musical que va représenter la ville de Londres. Et donc ces styles de musique vont se mélanger à la musique britannique. Et ce sera la même chose aussi pour Paris. On aura des influences venues d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Maghreb, qui vont venir se mélanger et créer des styles musicaux tout à fait originaux à la ville de Paris. Et voilà. Ça, c'est seulement une exposition qui utilise la musique qui peut le montrer.
Angéline Escaffré-Dubois, si vous commencez par parler de Londres, c'est parce que c'est Londres, l'endroit, le théâtre principal de ces migrations-là, juste dans la période de l'après-guerre, d'après Deuxième Guerre mondiale, mais peu à peu, Paris aussi va connaître des mouvements de migration qui vont aussi s'accompagner d'un certain nombre de musiques. Il y a notamment les musiques qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maghreb.
Absolument, effectivement, dans cette chronologie. Alors, la France est un ancien pays d'immigration qui se vit comme un pays d'immigration depuis longtemps. Puis, l'après-Seconde Guerre mondiale est un moment de grands bouleversements. Donc, on a le même phénomène que décrivait Martine Evans, c'est-à-dire de nombreuses contributions des populations coloniales à la Seconde Guerre mondiale et donc de nombreuses arrivées d'Algérie, du Maroc, mais aussi d'Afrique subsaharienne, de ce qu'on appelle les tirailleurs en France à cette occasion. Donc, il y a une première connaissance aussi pour ces coloniaux de la France et donc ils vont venir chercher du travail aussi dans les années 50-60. C'est vrai qu'au niveau des vagues migratoires, on a beaucoup d'Antillais qui arrivent dans les années 50 en Angleterre, mais on a aussi une forte proportion d'Algériens qui arrivent dans les années 50 entre 1954 et 1962. Il y a 150 000 Algériens qui viendront rejoindre le territoire français et qui portent à 350 000 cette population.
Martin Evans.
Et ça montre à quel point la chronologie est différente. Donc, Slavier, c'est après la Première Guerre mondiale, il y a l'arrivée des immigrés d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Et en Grande-Bretagne, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Par rapport à la France, donc il a déjà une présence importante, mais il y a une intensification de cette présence pendant les années 50. Et ce que nous, on voulait montrer à travers l'exposition, c'est la proximité. Maintenant, on habite ensemble avec ces populations.
Dites ça, Martine Evans, c'est d'ailleurs intéressant de voir que l'exposition montre à la fois les liens, mais aussi les différences. On apprend régulièrement à l'école qu'il y a deux modèles très différents. Un modèle d'assimilation, un modèle justement pluriethnique. Alors là, vous mettez en lumière qu'en réalité, les témoignages montrent des situations relativement similaires dans les deux capitales. Je vous propose d'écouter le témoignage de Kamal Hamadi, auteur, compositeur, interprète d'origine algérienne qu'on entend dans l'exposition.
À l'époque, il y avait ce sujet, c'était l'exil, c'était le Rolba.
Vous pourriez me citer une chanson au hasard ?
Beaucoup, il y avait le grand succès de l'époque, c'était « Tassé Sovra » de Slimane Azem et Bahia Farah, « Zagrib Zabrani » de Slimane Azem.
«
Zagrib Zabrani, je suis étranger dans un pays qui ne m'appartient pas. « Zagrib Zabrani, Mouramedden, l'ouachou l'mhani, d'arbegredden. » « Tassé Sovra », c'est la femme qui se plaint. Elle a trop attendu son mari qui ne revenait pas. Alors elle lui dit, si tu ne reviens pas, je vais me marier. C'est des sujets comme ça. Les gens se plaignaient de l'usine, se plaignaient de leur situation, parce qu'ils habitaient 5-6 dans une pièce. Le sujet, c'était surtout ça. Après, quand la révolution, quand la guerre d'Algérie a commencé à prendre du poids, c'était des chansons, des sous-entendus, des chansons patriotiques, mais comme par exemple Slimane Azem, c'était un des premiers qui a fait Frejrat Amourti, où il a eu des problèmes. La chanson a été interdite.
Pourquoi ça parle?
Ça parlait de la sauterelle, on appelait ça les criquets. Oui, les criquets, je crois. Criquets, tu m'as sort de ma terre, tu m'as tout mangé, et ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. C'est le colonialisme. Et puis d'autres, Missoum, qui chantait Yafillah, Mal Ard Kachana, au cultivateur, pourquoi ta terre est restée pas cultivée et pourtant tu es plein de richesses. C'est des chansons, des sous-entendus.
Angéline Escaffré-Dublé, on voit à quel point l'immigration dans la musique, elle ne sert pas simplement de vecteur, mais elle devient aussi un terreau de création, une terre aussi d'imaginaire. Il y a tout ce qui se mélange aussi dans les textes politiques.
Oui, l'idée, c'est aussi de montrer à quel point voilà, la musique vient accompagner l'expérience et vient effectivement adoucir la douceur de l'exil. Donc cette musique écoutée dans les cafés arabes par les travailleurs algériens, marocains et tunisiens dans les années 60. Mais aussi...
Parlez-nous de ces lieux, vous évoquez ces lieux dans des
oui,
cafés
on parle
parisiens.
Il y a effectivement des cafés algériens qui sont alors plutôt dans le nord et l'est de Paris, dans les quartiers où s'installent les immigrés dans ces années années 50-60, qui sont les quartiers qui sont les plus dégradés, les plus accessibles pour eux, donc vers Barbès, Belleville, à l'opposé un petit peu de ce qui se passe pour Londres, qui est une ville qui a été beaucoup bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc qui a été relativement désertée, et qui a un centre assez dégradé. Et donc c'est là que vont s'installer les immigrés, dans les quartiers de Notting Hill et Brixton. Donc on a une installation des immigrés plus dans le cœur de la ville, et on va aussi voir apparaître ces lieux où on écoute de la musique venue donc des Caraïbes ou de l'Afrique subsaharienne.
Il va y avoir cette géographie, d'ailleurs l'exposition Martine Evans, elle est faite aussi avec des cartes.
Des cartes.
Des cartographies de la ville. La musique va redessiner aussi les quartiers, notamment à Londres.
Oui, parce que on a, comme Angeline a dit, c'est que effectivement à Londres, c'est au centre, c'est l'idée des inner cities à Notting Hill et à Brixton, où on voit de plus en plus les sons et la musique de ces immigrés. C'est évident et c'est clair, une présence importante. Par contre, en France, à Paris, c'est plutôt par la suite les banlieues. Mais en même temps, il faut éviter des clichés parce que avec les cartes qu'on a, le quartier le plus important, le plus dense à Londres, c'est Southall, qui est un peu hors de Londres. Ça, c'est plutôt des immigrés qui sont arrivés de Pakistan et d'Inde.
Alors, vous parlez du Pakistan et de l'Inde, Martine Evans, c'est aussi parce qu'il y a eu, avec ces plusieurs vagues d'immigration, il y a eu plusieurs vagues musicales aussi. On parlait tout à l'heure des premières immigrations dans les années 50 ou même un peu avant, dans l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, qui étaient plutôt antillaises et jamaïcaines. Là, ça va être les immigrations d'Inde et du Pakistan.
Oui.
Qui vont arriver dans les années 60.
C'est à partir des années 50, et c'est Southall qui est très important, qui devient par la suite très important pour un type de musique propre à cette communauté, le Bhangra, qui est pas très, très bien connu en France, mais c'est un son, une musique qui est très importante, et à travers l'expo, on voit l'influence de ce son à travers le groupe Asian Dub Foundation. Donc, Southall, c'est un peu l'exception qui est la preuve de la règle, peut-être.
Qui confirme la règle.
Il va y avoir, Martin Evans, aussi des mélanges à l'intérieur des groupes musicaux. Il y a ce métissage qui intervient assez vite, alors on dit métissage des musiques, mais il y a aussi le mélange à l'intérieur des groupes. Vous avez rigolé quand je vous ai parlé des différents modèles d'intégration qu'on apprend à l'école en cours d'histoire. Il y a cette question qui est évoquée aussi dans la composition des groupes. Et notamment, un des exemples, c'est les Eagles. Baby Come Back, c'est 1967. Elle fait partie de l'exposition, cette chanson, comme bon nombre de vidéos. Alors, il y a des objets, il y a des tourne-disques, il y a des photos, des unes de presse, mais il y a aussi beaucoup de musique dans cette exposition. Martine Evans, c'est les Eagles. Ça représente une sorte de modèle.
Oui, ça, c'est un exemple de ce que nous, on appelle le hypercolonialisme, dans le sens, cette proximité des gens. Donc, les Eagles vient d'une expérience des lycées. Donc, cela veut dire les cinq membres des ICO fréquentent le même quartier. Donc, c'est évident de former un groupe comme ça avec deux blancs et trois noirs comme ça, avec un nom, bien entendu, étant donné l'Écosse des années 60, qui est c'est politique, les ICO comme ça. Donc, ça montre le lien entre la musique et les politiques. Mais aussi, un thème majeur de l'exposition, cette idée hypercoloniale, des lieux multiculturels qui émergent dans les deux villes pendant les années 50.
Alors, c'est vrai que, Angéline Escaffré-Dublé, on a le sentiment que la musique, vous disiez, adoucit parfois l'exil, mais elle renforce aussi parfois les préjugés. Finalement, elle peut tout accompagner, la musique.
Oui, ce qu'on a voulu montrer, c'est que effectivement, il faut peut-être relativiser les différences de modèles entre la France et l'Angleterre. Effectivement, vous avez ce groupe Les Equals qui sont nés en Guyane britannique, des Noirs et des Blancs. Mais en fait, ce qui se passe dans les années 60, c'est qu'on a des groupes de musique rock qui on voit pas à l'extérieur comme ça, mais pourtant la trajectoire des individus reflète cette histoire migratoire de la France. Pendant les Chaussettes Noires, par exemple, à part Eddie Mitchell, ils sont tous des rapatriés d'Algérie et reflètent aussi le démantèlement de l'Empire français. Il y a aussi un chanteur dont on parle, Vigon, qui est né à Rabat, qui a changé son nom, qui joue avec Michel Jonas dans le sein d'un groupe. Les Lemons. Donc il y a aussi ces rencontres, mais elles ne sont pas forcément aussi visibles. Et l'idée de cette exposition, c'est de les mettre en visibilité.
Alors Vigon qui vient de Rabat, on va en écouter un extrait. Vigon qui chante un petit ange noir.
Écoute, au père, je veux te parler.
Originaire de Rabat, qui devient aussi un modèle. Il va y avoir cette dimension aussi, ce rôle que vont avoir les artistes, de représenter des modèles possibles. Pourtant, là, on est encore dans les années 60, il y a un certain nombre d'artistes qui changent leur nom, pour la plupart, en tout cas, Angéline Escaffré-Dublé, qui changent leur nom d'origine maghrébine pour adopter des pseudos. Alors, Vigon, ça vient de wagon, une déformation justement du mot wagon lorsqu'il était enfant, mais il y a ce phénomène-là encore, une sorte de honte et d'imaginaire colonial qui est encore très fort.
Je ne sais pas si c'est une honte ou si c'est plutôt une manière de répondre à la mode de l'époque, qui est la mode avant tout de la référence au rock américain, qui donc enflamme la jeunesse des années 60.
À partir plus américain que Vigon comme nom quand même.
C'est sûr, mais le groupe c'était les Lemons. Ce qui va changer, c'est avec les années 70, le fait que la musique devienne un vecteur de protestation. Et ça va permettre de faire mettre entrer au devant de la scène, à l'avant-garde aussi musicale, ces musiciens. Donc là, on peut parler, surtout à la fin des années 70, début des années 80, de Rachid Taha, qui pour le coup, lui, ne change pas son nom, qui va représenter un véritable créateur aussi, initiateur de nouvelles formes au sein du mouvement punk, la légende dit que les Clash seraient venus en France et auraient écouté un concert de Rachid Taha et auraient, à la suite de ça, composé Rock the Casbah, qui ensuite est repris par Rachita. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas forcément toujours cette honte, ça progresse aussi, et ça, c'est surtout porté par le combat politique, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans cette exposition.
Martine Even, c'est peut-être une légende française, on ne sait pas à propos des Clash.
Oui,
mais...
c'était un mythe français, mais un mythe important. Oui, mais c'était un mythe.
Alors la grande question, c'est de savoir quand même, il y a une dimension violente aussi, qui est transposée dans la musique. Alors avant que la musique ne soit révolte, il y a quand même aussi cette idée que c'est à la fois quelque chose d'universel et quelque chose de très identitaire. Il y a ce mélange-là, cette ambivalence-là dans la musique, Martin Evans.
À Londres, pareil, ou
dans les deux.
À Londres, bien entendu, la musique était très importante comme expression d'une communauté, d'un lien entre ici et là-bas. Mais c'était aussi, à partir des années 70, c'était un moyen de protestation. On voit ça avec le carnaval de Notting Hill, l'établissement.
Alors expliquez-nous le carnaval de Notting Hill. C'est un élément très important de l'exposition.
C'est un élément très important de l'exposition, mais une histoire très, très, très compliquée avec beaucoup de racines, souvent très obscures. Une racine importante, c'est Claudia Jones, communiste de Trinidad, qui est arrivée des États-Unis pendant les années 50. Et après les émeutes racistes à Notting Hill en 58, elle avait l'idée d'établir, effectivement, c'était un carnaval. Ça, c'était à partir des années 59. Donc ça, c'est une racine importante. Son rôle est majeur, important. Un autre, c'est plutôt vers 60-66, il y avait une école libre liée, par exemple, avec Pink Floyd à Notting Hill. Donc, c'est l'idée d'avoir un défilé qui était multiculturel, qui, à la fin des années 70-60, devient de plus en plus politisé, lié à une lutte noire, lié au tiers-monde, à la décolonisation.
Et qui va devenir une sorte de théâtre musical et politique. Je vous propose qu'on l'écoute, Claudia Jones, que vous venez d'évoquer, qui était journaliste et cofondatrice du carnaval de Notting Hill. Et c'est l'extrait d'un reportage de la BBC, de BBC News, de 1963.
Well, I would say that the Commonwealth Immigrants Act
Eh bien, je dirais que la loi sur les immigrants du Commonwealth de 1962 a agi comme un moyen de dissuasion contre la venue des Antillais. Mais en vérité, c'était l'intention même de cette loi, que beaucoup d'entre nous ont considéré comme une loi de discrimination raciale. Ce qu'il est important de reconnaître aujourd'hui, ce n'est pas tant leur sentiment dirigé contre le texte en tant que tel, parce qu'ils prennent leurs responsabilités, que ce texte est loi et qu'ils se battent pour l'abroger, mais plutôt les conséquences de cette loi, c'est-à-dire le fait que la population en général, à cause de toute cette propagande contre les Antillais, les considère comme des citoyens de seconde classe. Et eux-mêmes, sur le terrain, dans toutes les sphères de la vie quotidienne, rencontrent cette difficulté depuis la loi sur l'immigration, en termes de discrimination, de ségrégation au logement, etc. etc.
Martin Evans, il faut que vous nous expliquiez cette loi à laquelle Claudia Jones fait allusion.
Oui, c'était une loi qui était introduite en 62, une loi qui était contestée. Et effectivement, c'était pour limiter. Donc, on avait les citoyens des Commonwealth qui étaient introduits. Donc, on avait l'idée que peut-être 800 millions citoyens de l'Empire, tout d'un coup, avaient le droit d'arriver en Grande-Bretagne.
Donc, d'ailleurs, ça a été le cas. Il y a eu de très forts flux migratoires à cette période-là, Martin Evans.
Oui, qui n'était pas prévu par le gouvernement, qui n'était pas prévu par le gouvernement, et même était bien vu par le gouvernement comme un exemple que comment le Commonwealth était multiracial. Puis tout d'un coup, il y avait toute une pression par des députés du Parti conservateur en disant qu'il faut absolument limiter la présence noire en Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne est une nation blanche. Donc c'est le blanchissement de l'État. Donc deux députés qui n'étaient pas au gouvernement. Et effectivement, à la fin, le gouvernement a cédé à cette pression. Et le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Butler, et le premier ministre McMillan, étaient même très mal à l'aise avec cette loi qui était complètement contestée à ce moment par le Parti travailliste, mais par la suite était acceptée par le Parti travailliste parce qu'on disait effectivement le sentiment raciste de la population
était majoritaire.
Il faut accepter ça.
Alors il y a des chiffres d'ailleurs qui apparaissent sur cette période, mais il y a aussi des documents dans cette exposition, des documents des services secrets de l'époque, justement sur les inquiétudes du gouvernement, inquiétude non affichée au départ, justement, Angéline Escaffré-Dubé. Alors, comment est-ce qu'on fait exposition avec, justement, des documents comme ça non officiels?
C'est le parti pris du musée, de cette exposition et du musée plus généralement, d'articuler différents types de collections, c'est-à-dire qu'on présente à la fois des œuvres d'art, mais aussi, on l'a dit, des objets ethnographiques qui permettent notamment d'écouter la musique, des tourne-disques, mais aussi des documents d'archives. Donc pour documenter cette histoire, alors on ne veut pas en abreuver le visiteur, il y a aussi de quoi écouter de la musique, effectivement, et de s'immerger dans ces contextes-là, mais les archives en font partie. On présente effectivement... Voilà, des archives, par exemple, de la préfecture de Paris au moment des concerts et des déferlements de jeunes dans les années 60.
Ah oui, vous parlez de ce document, justement, oui. Et d'Edgar Morin, puisque c'est la période, il y a l'article du Monde d'Edgar Morin et puis ces documents de la police, avec une immense inquiétude autour du rassemblement des jeunes dans les années 60, alors même qu'à posteriori, on a le sentiment que le rock y était un rock extrêmement gentil.
Mais pas du tout, ça réactive effectivement cette peur suscitée par la jeunesse, dont on trouve des parallèle d'ailleurs à Londres aussi, c'est-à-dire que c'est cette peur des blousons noirs. Donc ce qu'on voit dans les archives, c'est qu'ils sont fascinés de qu'ils aient eu tous l'information. On croirait que Facebook avait été inventé en 1963, et on retrouve cette même peur suscitée par la jeunesse en Angleterre, notamment parce qu'en Angleterre en 1963, on a supprimé le service militaire, et on pense que ça, effectivement, ça rend la jeunesse incontrôlable. Donc ce qu'on voudrait aussi montrer dans l'exposition, c'est à quel point ce potentiel de la jeunesse mobilisateur, ensuite, il sert à servir des combats politiques, mais c'est sans cesse renouvelé. C'est-à-dire que la jeunesse des années 70, comme la jeunesse des années 80, ensuite fait peur. Et effectivement, le carnaval de Notting Hill est fortement réprimé dans les années 75-76. Et donc, on a réuni des archives qui montrent ça sur la violence, le problème de la violence du carnaval. On a essayé, les autorités de Londres ont essayé d'interdire ce carnaval, d'essayer qu'il se tienne dans d'autres endroits, dans des lieux de... Et la communauté caribéenne a tenu à ce qu'il investisse les rues de Notting Hill. C'est vraiment une appropriation de l'espace londonien. Et c'est aujourd'hui, d'ailleurs, quelque chose qui fait partie de son image de marque.
Alors, en ce qui concerne Paris à cette même époque, et c'est peut-être la même chose pour Londres, ce que le sociologue Edgar Morin met en avant, c'est aussi ses conduites vestimentaires, ses choix vestimentaires identitaires particuliers, et cette manière, cette capacité de communion extatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces rassemblements? Il n'y a pas que l'idée de violence, il y a aussi l'idée de cette union qui peut-être en elle-même serait dangereuse, comme une sorte de croyance, Martin Evans.
Oui, c'était une peur des jeunes, mais surtout des jeunes hommes. C'est ça, il y a un côté masculin de cette époque qui est très important de souligner des jeunes hommes qui étaient hors de contrôle par la société, qui représentaient une menace pour la société, pour la loi. Angina a évoqué la suppression du service militaire l'idée que maintenant, en Grande-Bretagne, ces jeunes hommes n'ont plus de contrôle personnel. Et puis, tout d'un coup, on avait des affrontements, par exemple, sur les plages de Brighton, entre ce qu'on appelle les mods, très influencé par le look Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, et les rockers, les blousons noirs. C'était des affrontements comme ça, très, très, très violents entre des jeunes hommes comme ça. Et puis en plus, il y avait cette peur que la musique était liée à une culture noire américaine.
Alors voilà, il y a ce lien, il y a ce pont. Alors comme toujours avec le Royaume-Uni, hein, il y a toujours un pied en Europe, mais aussi un œil rivé vers les États-Unis dans cette relation spéciale. Et là, il y a cette influence et cette histoire des minorités afro-américaines qui va justement avoir un impact important en Angleterre. Il va y avoir des équivalents, en tout cas une inspiration très forte.
Oui, mais c'était une peur que la musique est noire et l'idée que c'est très émotionnel. C'est pas rationnel et que ça peut influencer des jeunes. Déjà, on avait l'impact du film en Grande-Bretagne de Rock Around the Clock en 56 avec des affrontements par les jeunes rockers. Et il y avait toute une série d'articles dans la presse britannique sur cet impact d'une musique qui est, quand on danse, c'est très émotionnel, c'est pas rationnel et donc ça, c'est comme des noirs. Donc il y a un aspect très, très, très racial de tous ces débats.
Alors, enfin, de fait, quelles sont les parentés politiques entre les groupes de contestation américains, afro-américains et ceux qu'on va trouver justement à Londres à la même période?
Oui, parce
Est-ce qu'il y a des vraies parentés?
Oui, parce qu'il y avait la peur de Enoch Powell. Il faut absolument évoquer l'importance de Enoch Powell avec son discours « Les fleuves du sang » en 60.
Alors, il faut expliquer que c'est un parlementaire Enoch Powell, britannique.
Enoch Powell, c'était un député qui était un député conservateur qui était obsédé par l'idée de guérir le parti conservateur de cette idée d'un Commonwealth multiracial. Pour lui, l'arrivée des citoyens de Commonwealth qui étaient noirs, pour lui, était un danger immense.
C'est une sorte d'invasion
du territoire. Oui, invasion. C'était comme De Gaulle. C'était De Gaulle qui avait dit « Je ne veux pas que Colombie et les deux églises deviennent Colombie les deux mosquées. » Et c'était le même principe pour Enoch Powell. Mais, sauf que pour Enoch Powell, c'était la référence était les États-Unis. Il a dit « Voilà ce qui se passe aux États-Unis avec une lutte raciale qui est liée à l'esclavage, et que nous, en Grande-Bretagne, on va importer les mêmes problèmes.
Alors, Angéline Escaffré Dublé, il va se passer plusieurs choses. Il y a le choc pétrolier, il y a des difficultés économiques qui commencent à freiner cette grande croissance des Trente Glorieuses, une période où on vit un peu moins bien et où les tensions politiques virent à l'extrémisme. En tout cas, il y a l'émergence de certains partis justement plus radicaux à cette période-là, et ça transparaît d'une certaine manière dans l'univers musical, puisqu'il va y avoir une défense, justement, une volonté antiraciste qui va apparaître chez les artistes.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, à partir du après le choc pétrolier, il y a donc une montée du chômage, que ce soit d'ailleurs en France comme au Royaume-Uni. Donc, on stoppe l'immigration économique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrer en Royaume-Uni ou en France, mais par d'autres biais, le regroupement familial ou l'asile politique. Et il y a des deux côtés de la Manche une politique qui consiste à voir dans la limitation de l'immigration un outil de résolution de la crise. Je le présente comme ça parce que c'est pas du tout évident que de limiter l'immigration résout la crise, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et ça va venir alimenter et surtout légitimer un discours de rejet des immigrés. C'est-à-dire que dans la mesure où des partis, on a parlé des Nock Powell, il faut bien avoir conscience que Nock Powell, il est pas d'un parti conservateur. C'est pas un parti, il est pas du Front National.
Pour le coup, c'est pas l'extrême droite.
Voilà,
oui.
C'est pas du tout l'extrême droite. Donc ça légitime ce rejet. Et ça, c'est tout à fait présent, que ce soit en France comme en Angleterre.
Alors,
et
en France, il y a le Front National, de toute façon, depuis les années 60 aussi, qui a pris une place plus importante par la suite, suite au choc pétrolier puis aux années 80. Martin Evans.
Mais ça montre à quel point la chronologie est différente dans les deux pays. Parce que pendant les années 60, avec Enoch Powell, la scène politique en Grande-Bretagne est dominée par cette discussion autour de race et nation, qui est absent, il me semble, en France.
Oui, c'est en 68, c'est très tôt, en fait. Nous, c'est plutôt les années 70.
Oui, il y a le racisme en France, bien entendu, bien, c'est évident. Mais il n'y a pas un grand débat sur la racialisation qui existe en Grande-Bretagne. C'est plus tardif en France. Donc ça montre comment, dans les deux pays, les chronologies sont différentes, même si les thèmes sont pareils.
Oui, alors, sur l'aspect artistique, Martin Evans, justement, il va y avoir des mobilisations, et notamment de la scène rock. Qui va réagir, il y a Rock Against Racism.
La scène rock et reggae. Hein.
Rock et reggae qui va réagir contre le racisme. Il va y avoir ces manifestations et ces concerts contre le racisme.
Oui, ça partait d'un événement, un grand événement. C'est un concert avec Eric Clapton qui vient d'avoir un tube énorme avec la chanson de Bob Marley, I Shot the Sheriff, un tube mondial. Mais c'est un concert à Birmingham en août 1973. Où pendant 15 minutes, il a dit, moi, je veux... Enoch Powell pour Premier ministre. Moi, je n'aime plus le rock and roll, j'aime le racisme. Il y a trop de Jamaïcains. Il faut absolument arrêter l'immigration comme ça. Et l'hypocrisie énorme de Eric Clapton, à cause de ça, il y a des artistes qui fondent Rock Against Racism comme un rejet
De
ce discours de Clapton.
Qui sera pas le seul à tenir, d'ailleurs, comme artiste.
Oui, c'est pas seulement Eric Clapton. C'est aussi le rôle joué par David Bowie, qui est fasciné par le fascisme. C'est le moment avec le Thin White Duke, un modèle, un caractère très aryen comme ça. Et lui dit, par exemple, que Adolf Hitler, c'est le premier rockstar. Mais plus que ça, il dit, par exemple, que peut-être la Grande-Bretagne est prête pour le fascisme. Et ça, c'est un contexte où le Front National, qui était fondé en Grande-Bretagne en 67, il y a vraiment une montée, même à Londres, d'un front national. Donc ça, c'est le discours de Clapton et puis aussi le discours de David Bowie en même temps.
Alors ça, on va le voir dans l'exposition, Angéline Escaffré Dublé. C'est peut-être là le parallèle est plus difficile. Certes, en France, il y a la scène rock, il va y avoir ensuite la scène punk qui émerge, mais peut-être avec moins de virulence au départ qu'elle n'arrive au Royaume-Uni.
Alors, ça dépend parce que, en fait, oui, c'est sûr que le Rock Against Racism, un peu conformément à la géographie qu'on a dessinée tout à l'heure, dans la mesure où l'installation des immigrés est dans le cœur de Londres, effectivement, Rock Against Racism se tient dans le cœur de Londres. Il y a une marche à travers Trafalgar Square. Donc, c'est vrai qu'il y a un mouvement un petit peu équivalent à la fin des années 70 qui est initié par des groupes militants de défense des immigrés et des enfants de parents immigrés, qui s'appelle Rock Against Police, qui va se situer dans les banlieues aussi parce que c'est là que sont installés les immigrés et qui a vocation à mobiliser ces troupes-là. Et ça donnera aussi des connexions, des connivences. Donc les scènes musicales ne sont pas organisées de la même manière. Il n'y a pas un impact aussi du punk tel qu'il pouvait être en Angleterre. Mais on a en tout cas un usage, un recours à la musique comme caisse de résonance de la lutte contre le racisme.
Alors la tout musique à fait comme considérable. Le concert qui devient un outil politique. Mais il y a aussi les marches et la fameuse marche pour l'égalité qui est présente dans cette exposition sous forme d'un document qu'on écoute ici.
Quand on veut rentrer dans une boîte ou dans un café, il ne faut pas nous demander est-ce qu'on est étudiant ou on est immigré. C'est pour ça que je suis ici, parce que bon, j'essaye de défendre aussi mes frères et mes sœurs.
Pourquoi cette démarche non violente? Justement parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas le droit de réponse. Pas le droit de s'expliquer. Il y avait des raisons. Les raisons de cette violence, c'était l'attaque à notre dignité, à notre fierté, par le biais des bavures policières. Et on s'est rendu compte, petit à petit, qu'on n'était pas écouté, qu'on n'était pas entendu, que l'image qu'on donnait de nous était absolument fausse. Ça, on en a été conscient très tôt, mais on n'avait aucune possibilité de s'exprimer. Enfin, on a réalisé que par le biais de la non-violence, c'était un des meilleurs moyens de toucher le plus de gens.
Alors c'est l'extrait d'un reportage de juin 1983 que l'on peut voir dans l'exposition. On entend Abdou et Farid, deux participants à la marche pour l'égalité et contre le racisme. Quel parallèle justement avec ce dont on parlait tout à l'heure, Martin Evans, avec Rock Against Racism?
Nous, à travers l'expo, on montre aussi les connexions entre les deux pays. Donc, Rock Against Police a été inspiré par Rock Against Racism, ça c'est sûr. Mais en même temps, il y avait une critique, l'idée que Rock Against Racism était trop commercial, que les lieux choisis, c'était pas évident. Et Rock Against Police, c'était plutôt des lieux où il y avait des meurtres. Donc c'était vraiment des lieux spécifiques.
Plus militants. Mm-hmm.
Plus militants, plus précis
dans la lutte peut-être.
Mais qui en même temps peut-être n'a pas compris l'esprit carnival de Rock Against Racism. En même temps, l'esprit carnival de Rock Against Racism. Donc il y a en même temps une inspiration mais une critique en même temps.
Alors on a parlé du rock, mais c'est un peu injuste parce que il n'y a pas que le rock, il y a évidemment le reggae que vous avez évoqué, puis surtout tous ces mélanges musicaux qui vont se faire et qui apparaissent dans l'exposition Angine Escaffré-Dublé. On voit ce métissage progressif.
Oui, ce qui nous importait, c'est de montrer à quel point il y a une richesse de styles musicaux qui découle de cette contribution d'immigration. Donc effectivement, dans les années 60, c'est le ska, mais aussi le high life et le rock steady. Dans les années 70, donc on voit le punk en particulier porter ce que Don Letts, dont on parle, qui est un musicien d'origine jamaïcaine, qui a fait le lien entre les Clash et le reggae, qui a une chanson composée par Bob Marley pour lui, Punky Reggae Party, et montre l'interface entre le ska et le punk qui est possible. Et puis ensuite, ça se diversifie. Effectivement, il y a des styles musicaux qui apparaissent dans la ville de Londres, par exemple, comme le Lovers Rock, qui est une, malgré son nom de rock, et en fait, un dérivé du ska et du reggae qui va donner le R&B plus tard. Et puis, en France, il y a le rail, il y a l'afrobeat, présenté en particulier par Manu Dibango. Et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est à quel point ces styles musicaux émergent de ce creuset musical qui est devenu Paris ou de ce creuset musical qui est devenu Londres et ne sont pas forcément ni enregistrés ni produits comme tels dans les pays d'origine.
D'ailleurs, donc, dans les marches qu'on a évoquées, Angèle Cascafré-Dublé, il y a une sorte de bande-son des marches.
Oui, on a appelé ça la bande-son de la marche pour l'égalité contre le racisme parce que si vous avez vu des photos de la marche, vous verrez qu'on voit vois souvent des jeunes avec des Walkman sur les oreilles. Donc ça, c'est aussi la musique dans la manière dont elle est diffusée. Elle a un impact sur les populations. Et il faut bien penser que les marcheurs, ils marchaient quand même toute la journée. Ils sont quand même partis de Marseille en octobre et arrivés à Paris en décembre. Et pour s'encourager, ils écoutaient de la musique dans leur Walkman. Donc en fait, on s'est demandé quelle musique ils écoutaient.
Alors, il y a Bob Marley, il y a Otis Redding.
Bien sûr, il faut se donner le courage de marcher. Donc Bob Marley donne du courage. Renaud aussi, de Renaud qui vient d'ailleurs les rejoindre.
Qui va marcher aussi avec
eux. Qui marche avec eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup assigné au rap cette fonction sociale de représenter l'immigration, en particulier à partir des années 90. On voulait aussi restituer à quel point le rock a accompagné ces combats. Tous les marcheurs, ces militants des années 80 disent à quel point le rock les a soutenus. Et donc, quelqu'un comme Renaud qui vient rejoindre les marcheurs, c'était une figure très importante pour eux. Et ça, c'était l'occasion à l'exposition de le montrer parce que, évidemment, avec la sédimentation qu'est l'histoire, on oublie parfois ces contributions et ces connexions qui ont eu lieu.
De même que les chansons aussi, dans leur texte elles-mêmes, les Béruriers Noirs contre le Front National, etc.
Absolument, la jeunesse emmerde le Front National, c'est un slogan qui a émergé au cours des années 80 pour cette chanson Porcherie qu'interprétait Béruriers Noirs, où il n'y avait pas la jeunesse emmerde le Front National comme ça, mais qui est venue au cours des concerts parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils disaient du mal du Front National, ils ressentaient un fort écho de la part de la jeunesse et de leur public. Et donc, ils sont allés de plus en plus loin dans ce discours anti-Front National.
Martine Evans, on va voir que dans l'exposition, il y a trois décennies qui sont balayées. Donc, c'est énorme, oui, c'est 30 énorme. Ans. Donc, il va y avoir l'évolution années 70 et 80. À partir de l'apparition de ce qu'on a appelé la contre-culture, il va y avoir aussi une liberté de ton qui va faire évoluer la musique. Il va y avoir des reprises scandaleuses, entre guillemets. Martine Evans.
Scandaleuse,
qui vont faire scandale. La Marseillaise en reggae, de Gainsbourg.
Les Sex Pistols et tout ça. Oui, c'est de faire scandale. C'était un moyen de protester. Mais qui était présent dès le début, parce qu'on avait le mot reggae qui était inventé en Jamaïque en 1968. Un impact énorme sur la diaspora jamaïcaine en Grande-Bretagne à travers Bob Marley. Donc, c'était un moyen de lutter, d'exprimer, faire scandale contre la société, contre l'exclusion. Donc c'est normal que la musique peut jouer ce rôle. D'où vient le lien entre le punk et le reggae? C'était deux moyens d'exprimer la lutte contre la société par les déshéritiers.
Alors il y a aussi la question juste de la reprise, l'idée de reprendre un morceau musical traditionnel et de se le réapproprier, qui en soi est un acte politique.
Bien sûr, parce qu'il y a l'exemple, c'est l'exemple célèbre de Clash, c'est le White Riot, parce que Joe Strummer et Paul Cinnamon étaient présents pour le carnaval de Notting Hill en 1976, où il y avait des affrontements entre des jeunes noirs, surtout des jeunes noirs, et la police. Et Joe Strummer était présent, et il dit que ce n'était pas une chanson raciste, c'était pour mettre les ponts entre les noirs et les blancs. Il dit, nous, on veut notre propre émeute.
Alors, il y a aussi cette idée dans les années 80 de grande connexion entre les villes, parce qu'aussi les transports le permettent, parce qu'il y a de grandes proximités entre certains labels, certains studios. Il y a des collaborations artistiques, Martine Evans, qui naissent aussi entre les anciennes minorités qui deviennent aussi des groupes de musique très importants et qui vont justement collaborer avec de la musique plus classique, plus traditionnelle. Ça devient plus poreux.
Oui, qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Un célèbre exemple, c'est entre Zebda et Asian Dub Foundation. On peut trouver sur YouTube, c'est une très jolie version de Police on My Back par Zebda et Asian Dub Foundation, en anglais, en français, la chanson des Equals. Donc il y a des collaborations comme ça. Et puis aussi, il y a l'impact d'une personnalité comme Lynton Kwesi Johnson, un impact énorme en France sur le plan politique et comment lui, il a politisé toute une génération. Un impact énorme sur Rachid Taha, par exemple. Et puis, des liens, des collaborations entre Rachid Taha et Mick Jones, très, 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 très célèbre.
Merci à tous les deux, Angélinès Caffré-Dublé et Martine Evans, d'être venus parmi nous. Merci. Aujourd'hui, vous pouvez aller admirer l'exposition Paris-Londres Music Migrations au Musée de l'Histoire de l'Immigration de la Porte Dorée à Paris, et c'est jusqu'au 5 janvier prochain.
partagé, encore peut-être inavoué, peut-être encore jamais dévoilé. Je l'ai vu à la télé. Si je mens, je vais en enfer. Faut t'avouer et ta moitié pardonner. Et on en reparlera si tu dis la vérité. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai pas le temps me laisser envahir par tous les faux sourires. Et j'ai tout quitté afin de te trouver. Je t'ai trouvé dans la foi. Au fond d'enfuis la moi. Et j'ai tout quitté afin de te trouver.
Et on entend clair l'affût vérité. Extrait de l'EP Mojo sorti l'année dernière, la jeune artiste belge sera en concert le 24 août à Namur, le 29 août à Bulle et le 30 août à Lyon dans le cadre du festival Woodstower. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture. Si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité l'écrivaine Anne Griffin. À 84 ans, voilà que Maurice Hannegan, fermier prospère de Rainsford, décide de lever une dernière fois son verre de Bull Mills en mémoire des siens. 5 toasts portés bien haut, 5 monologues intérieurs qui nous racontent son histoire et celle de l'Irlande, de l'indépendance à l'avènement du tigre celtique. Toute une vie et un soir, c'est le premier roman d'Anne Griffin, publié aux éditions Delcourt. Anne Griffin est aujourd'hui l'invitée du portrait de la grande table d'été, traduite par les soins de Xavier Combes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, votre entrée en écriture, puisqu'il faut peut-être commencer par parler de ça, Anne Griffin, a été finalement une sorte de tournant de carrière pour vous, puisque bien avant, il y a eu des livres, mais il y a eu des livres d'abord que vous avez proposés à d'autres lecteurs, puisque vous avez été libraire.
I worked for Waterstones Booksellers in my 20s for 8
years. Travaillé dans une librairie pendant environ 8 ans. C'était 8 années formidables, j'ai adoré ce travail.
And I worked in both Dublin and London.
J'ai travaillé à Dublin mais aussi à Londres. J'ai rencontré des gens incroyables.
John Boyne,
nous avons travaillé ensemble. Nous étions jeunes à l'époque. Sarah Webb, écrivaine irlandaise, Paul Murray. Donc c'était 8 années formidables.
Et pourtant, vous avez dit dans un certain nombre d'interviews que pour vous, passer à l'écriture, devenir écrivain, c'était un peu comme devenir astronaute. Vous n'y aviez jamais pensé comme à une profession possible, réelle, Anne Griffin.
Absolutely. Well, when I worked in bookselling,
oui, quand j'étais libraire, j'étais acheteuse dans le domaine de la non-fiction. Donc j'achetais des livres de psychologie, d'histoire, des essais, des choses comme ça, des sujets universitaires, mais j'avais des amis qui achetaient des livres de fiction, des romans, et par conséquent, je croisais des écrivains, Richard Rousseau, auteur que j'adore, et j'ai croisé des gens comme ça. Et ces acheteurs et acheteuses dans le domaine de la fiction étaient des écrivains en devenir, Paul Murray par exemple, très bon exemple, John Boyne aussi d'ailleurs. Mais moi, je ne me suis jamais dit que j'allais devenir écrivaine. C'était à mes yeux la profession d'autres personnes, des gens de cette communauté dans laquelle je gravitais, mais dont je ne faisais pas partie en tant qu'écrivaine. Donc il m'a fallu des années pour arriver à ce degré de maturité pour me dire, mais oui, après tout, je pourrais moi aussi écrire. Et bon, il faut du talent, certes, pour écrire, mais il faut surtout beaucoup, beaucoup travailler, écrire, réécrire et encore réécrire. On n'écrit pas un chef-d'œuvre sans heure, hein. Il faut sans arrêt remettre l'ouvrage sur le métier.
Écrire, c'est réécrire.
Yeah, writing is rewriting, isn't it?
Absolutely.
Absolutely. C'est tout à fait cela. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, oui, ben voilà, j'adore cet exercice. Non seulement ça me plaît, mais il semble que je puisse y arriver aussi.
Alors, une fois que le cap a été enclenché, ça n'a pas été tout de suite l'histoire, Anne Griffin, de Toute une vie et un soir, le livre que vous venez de publier et qui vient d'être traduit. Ça a été d'abord des écritures, des manuscrits qui ont commencé, des nouvelles qui ont été publiées dans la presse. Il faut dire que vous appartenez à une tradition littéraire bien particulière, la tradition irlandaise, 4 prix Nobel, un prix Nobel par million d'habitants, dit-on.
It is a, you know, I am blessed to be an Irish writer.
Ah, je suis ravi d'être écrivaine irlandaise, parce qu'en Irlande, on honore les écrivains. Nous sommes une nation de conteurs en Irlande. Donc, la tradition orale de l'histoire, de la narration est très importante. Et on passe à l'écrit, évidemment. Donc, côtoyer des John Banville, des Anne Wright, des John Boyne, Joseph O'Connor, des gens comme ça, que dire, c'est formidable, parce que nous avons à portée de voix les grands maîtres de l'écriture. Par exemple, je suis à l'université pour faire un master d'écriture, et mon ancien, c'était Anne Wright, et il y avait Frank McGuinness, qui est un dramaturge merveilleux. Donc, ils sont partout, ces gens-là, du talent irlandais, partout. Et c'est un environnement qui vous soutient, en plus, en Irlande. La communauté des gens de l'écriture est formidable. John Banville a beaucoup soutenu les gens qui écrivaient. Quand j'étais étudiante à l'université, il a lu mon livre, vous voyez. Donc, dans cette communauté, dans ce milieu, on sait qu'il faut aider les écrivains à devenir, parce que c'est bénéfique pour tout le monde.
Alors, Anne Griffin, pour en venir au roman lui-même, Toute une vie un soir, vous êtes justement à la croisée de deux types de livres. À la fois, c'est l'histoire de l'Irlande que l'on retrouve à travers ce personnage de Maurice Hannigan, puisque c'est l'Irlande rurale, c'est le comté de Meath, mais c'est aussi l'histoire depuis l'indépendance, l'histoire des terres redistribuées, l'histoire aussi du tigre celtique, du succès économique de l'Irlande qu'a croisé la vie de Maurice Hannigan. Mais c'est aussi un roman familial.
Oui,
tout à fait, c'est les deux en même temps. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à me plonger dans l'histoire de l'Irlande pendant la durée de vie de Maurice Hannigan, 84 ans, et j'ai regardé l'évolution de l'Irlande qui est passée de la pauvreté, qui a connu des récessions, notamment la récession à partir de 2008, et il y a eu des périodes de richesse et de prospérité. Et Maurice Hannigan a tout à fait réussi. Il est devenu agriculteur couronné de succès. Mais j'ai voulu m'intéresser à ce que fait l'argent au sein d'une famille aussi. C'était très important pour Maurice. Et lorsqu'il était jeune, Maurice travaillait pour la famille dans la grande maison.
Famille Dollard.
Yeah, the Dollard family. Oui, la famille Dollard, absolument.
Not of
c'est pas les gens les plus sympathiques qui soient. Donc, Maurice était parti d'un mauvais pied, en quelque sorte. Et l'argent était devenu pour Maurice une sorte d'arme, parce qu'il voulait être aussi bien qu'eux, en fait. Et il a voulu en faire la preuve. À partir de là, il est devenu très protecteur de sa famille. Il ne savait pas bien communiquer avec les membres de sa famille, mais... Néanmoins, c'était un homme très fiable, très déterminé et très protecteur de sa famille parce que son frère, lui, avait souffert et d'autres membres de sa famille aussi. Donc, pour répondre à votre question, oui, ce livre est à la croisée de deux aspects très importants de l'Irlande. Le progrès, l'indépendance, le progrès, l'évolution de ce pays avec une analyse détaillée d'une famille, notamment le personnage du père de la famille.
Alors, c'est vrai que ce personnage de Maurice Hannigan, on le retrouve seul, monologuant, se parlant à lui-même. Le lecteur lui-même l'écoute comme s'il était à l'intérieur de lui. Et il parle de sa famille et ce rapport à son histoire personnelle, c'est aussi un rapport à l'histoire collective. On va écouter Anne Wright, que vous avez évoqué plus tôt, écrivaine irlandaise, parler, elle, de son rapport à la famille dans son écriture.
There are some countries where you go and people recognize it very strongly.
Il y a des pays où la chose est particulièrement frappante et vous vous dites, le monde est fait de familles. Peut-être qu'à Londres ou à Manhattan, les gens n'ont pas de famille. Je me rappelle une fois à Londres, quelqu'un m'a dit, je ne rentre jamais chez moi pour Noël, je déteste ma famille. Et je me suis dit, waouh, quelle classe! Je veux dire, en quoi le fait de détester a-t-il un rapport avec tout cela? Je veux dire, bien sûr, en Irlande, peu importe ce que tu penses, tu rentres et puis c'est tout. Alors, c'est probablement dû au fait que l'île est petite et aussi à la forte histoire de migration que nous avons connue, au fait que les gens aient ou pas été en capacité de revenir chez eux à des moments clés. La famille, dans le contexte irlandais, est donc ce qu'il reste, ce lien douloureux. Et cela rend cette famille encore plus iconique d'une certaine manière que ne s'emploie à le faire l'Église catholique irlandaise. La famille, c'est donc cette unité iconique, et elle a aussi une puissante fonction sociale en Irlande. Les familles se serrent vraiment les coudes en Irlande. Tu es vraiment collé à ta famille d'une manière ou d'une autre, je pense.
Anne Griffin, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Justement, la famille iconique irlandaise, une prison presque aussi forte que cette île au milieu de l'océan.
Oui, c'est tout à fait vrai. La famille est si importante en Irlande. Anne a raison. Peut-être que cela tient au fait que nous avons dû partir sans cesse pour survivre. Il a fallu quitter l'Irlande. Il y a eu des exodes et il y avait des familles énormes parce que l'influence de l'Église catholique qui était contre la contraception et ainsi de suite. Donc les familles étaient très grandes. Donc mes deux parents, eux, sont issus de deux familles de 10 enfants chacune. Donc vous voyez, donc les Irlandais sont réputés pour partir pour survivre parce que les terres ne suffisaient pas, ou alors elle ne donnait pas de bonnes pommes de terre, en quelque sorte. En 86, j'étais à l'école, et on nous a dit que nous partirions tous pour poursuivre des carrières. On nous a dit, votre carrière, vous ne la ferez pas en Irlande, il faut quitter ce pays. C'est ce qu'on nous disait à l'école. Donc, revenir chez soi, c'est très important. C'est une relation de « je t'aime, moi non plus ». Voilà, c'est ça la relation que les Irlandais ont avec leur pays, avec leur famille. C'est pourquoi, pour Maurice, dans le livre, sa famille est assez peu nombreuses, ce qui est très rare à l'époque. Il n'y avait qu'un enfant.
Et pourtant, il y a cette histoire d'immigration dans sa famille aussi, à Maurice Hangan, puisque son fils lui-même a quitté et parti aux États-Unis. Cette histoire d'exil, elle existe aussi dans votre livre, Anne Griffin.
Oui, le fils, tout à fait. Le fils quitte l'Irlande, il s'appelle Kevin. Il a mon âge et il a mon expérience. Donc, il a un caractère autobiographique. Donc, il quitte l'école au moment où moi, j'aurais dû quitter l'école. Donc, il a fait des études universitaires pour devenir journaliste, mais il a dû partir pour aller aux États-Unis.
À travers justement ce personnage, on dit que tout livre a une légende, alors vraie ou fausse, la légende de votre livre, en tout cas celle que l'on raconte dans la presse anglo-saxonne, Anne Griffin, c'est que au départ de ce livre, le matériau originel, ça aurait été une rencontre que vous avez eue, vous, avec un vieil homme, au comptoir du bar d'un hôtel, comme dans le début de votre livre, et que cette rencontre-là, elle aurait été à l'origine de cette histoire.
Absolutely. Yeah, it was...
Oui, tout à fait. Ça remonte à 2014, je crois. J'étais en vacances avec mon mari et mon fils dans le comté de Mayo. Il y pleut encore plus qu'ailleurs en Irlande. Et nous faisions du vélo. Pourquoi aller faire du vélo sous la pluie, me direz-vous? Bref. Et mi-chemin de notre parcours, nous sommes allés dans un petit hôtel. Et là, au bar, il n'y avait qu'une seule personne. Un homme âgé, il devait avoir 70 ans, un petit peu plus, très distingué, et il avait évidemment une bière à la main, et il est venu pour parler avec nous. Il m'a dit deux choses dont je me souviens et qui ont donné lieu à ce livre. Tout d'abord, il m'a dit, je travaillais dans cet hôtel quand j'étais jeune garçon. J'adore cette idée du cercle de la vie. Et donc, le voilà, à l'âge de 70 ans, il revient au bar de l'hôtel où il travaillait alors qu'il était gamin. Mais c'est la deuxième chose qui m'a la plus bouleversée. Il m'a dit ceci. Je ne verrai pas le matin demain.
amazing words to tell any stranger, to tell anyone.
Incroyable de dire ça.
But he was gone because another couple came into the bar. He wanted to go speak to them.
Notre couple est arrivé dans le bar. Il a voulu leur parler. Et moi, ces mots sont restés en moi. Donc, je me voilà à vélo le lendemain sous la pluie. Je répète, si vous connaissez la pluie en Irlande, imaginez. Il y a différents types de pluie en Irlande. Celle-ci, c'était celle qui vous cinglait le visage un petit peu, qui vous fait rougir les joues. Oui, absolument. Oui. Et je me suis dit, attendez, cette rencontre, tu vas t'en servir et tu vas la disséquer. Donc voilà un homme assis au bar d'un hôtel et qui va porter cinq toasts aux cinq personnes les plus importantes de sa vie. Par ce monologue, on apprend à connaître Maurice Hannigan, pourquoi il est assis à ce bar-là. Et évidemment, on sait ce qui va se passer à la fin de l'histoire. Donc, cinq histoires qui racontent l'histoire de ce Maurice Hannigan.
Anne Griffin, vous prenez un élément qui est aussi un élément culturel en Irlande, l'histoire du dernier verre, l'histoire aussi du verre porté, du toast nominatif. Et vous reprenez cet élément culturel et vous le transformez en un élément littéraire et même en structure de roman, puisque votre livre est divisé en cinq toasts. Alors, il y a un chapitre qui présente cette histoire-là. Et puis, c'est la structure même du roman que de porter cinq vers qui sont l'occasion de se rappeler, de se remémorer cette vie, cette existence qui touche à sa fin.
Au
bout d'un an d'écriture, je me suis dit qu'il fallait une structure bien définie pour ce livre, parce que j'avais l'expérience des nouvelles. Du reste, j'avais commencé à écrire sous forme de nouvelles pour ce livre. Mais en tant qu'écrivaine débutante, pas jeune, mais débutante, il fallait que j'écrive un roman, 70 000 mots environ, et je me suis dit que Maurice serait un petit peu le fil conducteur des différentes nouvelles. Alors, cette structure, je l'ai mais j'étais inspiré par Spinning Heart de Donna Ryan. 11 personnages. Et ça se décline comme ça. Donna Ryan, tous ses livres, je les ai lus, je pleure à chaque fois. C'est un écrivain formidable. Bref, donc je me suis dit, cette structure-là, je peux l'adopter. Les chapitres seront plus longs. Il n'y en aura pas 11, il n'y aura que 5. Mais cette structure m'a donné confiance. Ça m'a donné le cadre. Ça m'a permis d'avancer. Ça m'a montré que je pouvais écrire l'histoire de Maurice, écrire les hauts et les bas de sa vie. Et par la suite, il y a la pièce du roi Édouard VIII que l'on retrouve comme fil rouge, et ça j'adore aussi. Je voulais un élément qui soit un fil conducteur supplémentaire en quelque sorte, mais il me fallait un élément de liaison entre Maurice et la famille Dollard.
Pas la famille pour laquelle il a travaillé quand il était enfant et pour laquelle sa mère aussi travaillait.
Exactly. Yes.
Oui, tout à fait.
So he spent his time basically buying their land.
En fait, il a consacré sa vie à racheter leur terre. Mais je voulais autre chose. Je voulais un élément qui lie Maurice à la famille sous forme de culpabilité. En fait, il y avait cette pièce qu'il avait dérobée.
As each of those five stories are told, this other story.
Et donc il y a le fil conducteur principal, il y a l'autre fil conducteur, et donc on apprend ainsi comment l'histoire évolue et comment ça se termine.
Alors ce sont à la fois Anne Griffin cinq monologues d'une certaine manière, mais ce sont aussi tous les personnages que l'on retrouve à travers lui. Il y a ce narrateur en jeu très fort, ce Maurice Hannigan pas très instruit, qui a quitté l'école dès le plus jeune âge, qui a ce rapport très fort à la terre, qui est d'un milieu extrêmement modeste, mais qui a fait cette prodigieuse ascension sociale qui lui donne un univers particulier, celui de la réussite, celui de l'amour qu'il a pu trouver, d'une vie relativement accomplie. Et à travers son regard, finalement, tous les autres personnages surgissent. Donc c'est à la fois le monologue et aussi le roman traditionnel que l'on retrouve.
Oui, en effet. Il y a également la forme traditionnelle du roman. Mais ce monologue, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, l'histoire se raconte à la première personne, et ça, c'est très important pour moi. Je pense que, en l'occurrence, ça donne plus de puissance à mon propos. Mais je voulais que la voix de Maurice soit une voix qui engage le lecteur. Je voulais que le lecteur entende la voix de Maurice. Ça, c'est très important. C'est ainsi que j'ai écrit. Et ce que j'aime particulièrement, et on me l'a dit d'ailleurs, c'est que ce serait un très, ce serait un livre tout à fait adaptable au théâtre, comme si on était assis à côté de Maurice. Donc nous voilà avec un monologue, voilà un homme qui pourrait s'adresser à un public. Donc il y a un côté théâtral là-dedans aussi. Il y a une pièce de théâtre irlandaise où le personnage est un homme assis à un bar, ça s'appelle The Weir, je crois. Mais j'aime cette idée. J'adorerais personnellement voir Maurice sur scène, hein, dans une pièce de théâtre. À mon avis, ça devrait fonctionner. Personnellement, moi, j'aime les livres à la première personne parce que moi, je m'immerge dans le livre immédiatement. J'imagine les choses, je vois des images. Donc moi, en tant que lectrice, c'est la forme qui me convient le plus. Mais comme écrivaine, c'est ce qui me convient. Maintenant, il faut que je me lance le défi d'écrire à la troisième personne. Mais la première personne, c'est ce qui m'a convenu le plus pour écrire ce livre-ci.
Anne Griffin, il faut qu'on rappelle quelque chose, c'est que Maurice boit. Il est en train de porter ses toasts, mais il les boit, ses verres. Ce verre se remplit et se re-remplit. Et donc, au fur et à mesure, l'alcool aidant, les souvenirs remontent, les souvenirs de ce presque siècle passé, avec les mutations qu'on a pu connaître en Irlande, justement, culturelles, mais aussi les mutations, les évolutions des mœurs, notamment. On croise un peu les histoires de mariage, les histoires d'amour qui ont évolué. Et l'alcool aidant, les fantômes reviennent.
Yes. So at one point in his a very sad point in his life,
oui. Maurice a connu des moments fort tristes dans sa vie. Maurice et sa femme Sadie perdent
baby. She's stillborn, Molly.
Molly, becomes a very, very important person. Et Molly devient un personnage très important.
Because Maurice,
en effet, believes he can still Maurice see her, and pense she talks, qu'il la voit.
He talks to her
et il parle
quite a lot in the book.
À sa petite fille
and so
disparue.
She is like, she sits on his shoulder.
Elle est assise sur son épaule.
The voice of reason and of wisdom.
Et Molly, c'est la voix de la raison et de la sagesse. Il y a son frère Tony aussi. Tony est décédé lorsque Maurice avait 16 ans.
De la tuberculose.
Oui, oui.
Donc ça raconte aussi cette histoire-là, hein, de la, du début du siècle. Du milieu du siècle.
Yes, absolutely. Which was, you know, I remember, it was from my father that
oui,
I wrote Tony.
En fait, c'est mon père qui m'a inspiré le personnage de Tony.
And, you know, every
la tuberculose a frappé toutes les
you know,
familles irlandaises. Tout le monde connaît quelqu'un qui est mort de la tuberculose en Irlande. Donc, il fallait évidemment que la personne aille à l'extérieur de la maison, dans un appentis, dans le Jourdain. Et mon père m'a raconté l'histoire de son cousin, d'une cousine plutôt, qu'il fallait mettre dans un appentis. Et la famille a dit non, non, pas question qu'elle aille dans l'appentis. Ça, c'est très important pour moi. Je me suis dit qu'il fallait que la famille de Maurice dise non, ce garçon-là n'ira pas dans l'appentis, c'est impossible. Donc, la tuberculose joue un rôle très important dans l'histoire de l'Irlande aussi, vous l'avez dit. Mais pour revenir au personnage de Tony, Tony était le protecteur de Maurice, particulièrement à l'école. Maurice souffre de dyslexie, il n'est pas très bon à l'école, il quitte l'école rapidement, mais c'est Tony qui ne cesse de dire à Maurice qu'il est bon, qu'il réussira, que sa vie sera pleine et entière et qu'il travaillera sur la terre. Et Tony lui dit la vie sur la terre, en travaillant la terre, c'est ce qu'il y a de mieux comme vie. Mais, et donc Tony est très présent dans la tête de Maurice. Il y a une scène où un jour Maurice se rend compte qu'il n'a pas pensé à Tony de toute la journée. Et ça l'inquiète, ça ne va pas. Et cet homme important a quitté sa vie. Mais il revient, il est lui aussi assis sur son épaule et il regarde les sports avec Tony, comme si Maurice et Tony étaient en pleine conversation.
Alors, il y a justement cette histoire des fantômes et des morts qui ne l'ont jamais complètement lâché. En décidant d'avoir comme narrateur un homme âgé qui justement se rappelle aussi de ce qui est arrivé à ses parents, à sa famille, de ce qui lui est arrivé tout le long de sa vie, il y a cette idée d'une sorte de testament littéraire, de dire, en tout cas de se dire à soi, à sa dernière heure, au moment de ses dernières heures, tout ce qui a été tué. D'ailleurs, Maurice s'adresse au lecteur comme s'il s'adressait à son fils, à qui il a si peu dit. Et là, c'est un autre élément de la culture irlandaise que vous pointez. Vous parlez de ces hommes silencieux, des émotifs silencieux, Anne Griffin.
Absolutely. There are so many of them in my life.
Ah oui, les hommes silencieux, j'en connais beaucoup dans ma famille.
Tous
les Irlandais, toutes les Irlandaises vous diront qu'en Irlande, les hommes sont mutiques. En effet, on se dit que les Irlandais sont des gens qui adorent lever le coude, boire un verre et faire la fête. Mais les hommes irlandais, oui, ont des histoires à raconter. Mais ces histoires sont superficielles et ne se livrent pas. Et Maurice, lui, exprime ses regrets parce qu'il n'a pas pu dire à son fils, Kevin, le journaliste, mais tu es un garçon étonnant. Je suis admiratif de ce que tu es devenu, de ta bonté, Kevin. Il n'a jamais pu dire ça à son fils. Donc, c'est une espèce de poème d'amour, d'ode envers son fils. Je t'aime, mon fils, mais il faut que tu saches que je t'aime. Même chose pour son épouse, Sadie, parce qu'il a des regrets, parce qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas forcément toutes tenues. Donc, oui, moi je voulais vraiment amener cet homme irlandais mutique qui est vraiment une part très importante de la culture irlandaise.
L'une des particularités, Anne Griffin, du livre, c'est de raconter une Irlande rurale. Alors c'est une Irlande rurale, mais qui est très ancrée malgré tout dans une forme d'actualité, puisque elle a connu ce décollage économique très fort du tigre celtique. Et puis, il y a ce trou générationnel entre lui et son fils, entre justement le personnage principal et ses enfants, ce qui existe aussi aujourd'hui en Irlande. Il y a eu cette ascension sociale très forte. Et si on imaginait un autre roman qui le suive, si on suivait les générations futures, il y a aussi cette histoire de crise sur laquelle les écrivains irlandais écrivent beaucoup en ce moment.
Oui, Donald Ryan, Claire Kilroy, il y a différents auteurs qui ont écrit ces romans, dits romans de la récession. Moi, je voulais, dans ce livre, nous amener à l'histoire contemporaine de l'Irlande et cette notion de crise et de récession au cours des 20 dernières années, parce que ça recouvre de très nombreuses années quand même. Mais j'aime beaucoup cet aspect-là. Et je voulais dépeindre l'Irlande moderne par les yeux d'un homme de 84 ans. Cela. Et même à l'âge de 84 ans, ce Maurice, lui, il sait se servir d'Internet pour regarder ses comptes bancaires. Et donc, c'est intéressant de voir comment la société évolue de ce point de vue-là. Et il y a donc la jeune femme derrière le bar qui s'appelle Svetlana. Svetlana, ça montre aussi comment la culture irlandaise a changé, donc avec les nouveaux immigrés venus d'Europe de l'Est. Il y a un très bel échange avec Svetlana. Et ils sont assez proches l'un de l'autre dans leur conversation. Et je voulais montrer cela. Les gens de 80 ans ne doivent pas toujours avoir peur des immigrés. Ça, je veux montrer ça aussi. Et Maurice, lui, un échange très positif, chaleureux avec elle. C'était assez émouvant. Du moins, j'ai voulu que ça soit émouvant.
Merci Anne Griffin d'être venue parmi nous. Je rappelle le titre de votre premier roman, Toute une vie et un soir, qui est publié aux éditions Delcourt. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Lou Lejoli, Lou Quevauvillier et Julien Rosa. À la réalisation Marie Placé et à la technique Nasser Moussaoui.